Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, mais aussi Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Batté. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Notre dernière table ronde avant de se retrouver, évidemment, après l'été.
Plein d'énergie.
Cher Marc, absolument. Ce matin, Marc s'ouvre le G20 à Osaka, au Japon. Depuis 20 ans maintenant, les chefs d'État et de gouvernement de ses membres se réunissent annuellement afin de favoriser la concertation internationale et aider à la résolution des grands problèmes mondiaux. Au sommet de cette édition présidée par le Japon, le dérèglement climatique sur lequel s'est exprimé Emmanuel Macron en arrivant à Tokyo, mais aussi l'Iran, dont les relations avec les États-Unis ne cessent de se tendre, notamment depuis la destruction d'un drone américain la semaine dernière. Autre dossier sensible, la Corée du Nord et la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et puis par ailleurs, le président américain devrait également rencontrer son homologue chinois, lesquels ne manqueront pas de sujets d'affrontement, et notamment en matière de guerre commerciale. Alors que peut-on attendre de ce G20? Permettra-t-il des avancées sur les principaux enjeux du moment? Nous avons invité ce matin Benjamin Haute Couverture. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du programme Maîtrise des armements à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. On attend d'un instant à l'autre Bertrand Badi qui va nous rejoindre. Avant d'évoquer toutes ces questions et ces sujets brûlants du G20 d'Osaka, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Éthiopie, c'est Laurent Larcher. Bonjour Laurent Larcher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef du service Afrique au journal La Croix. On va parler avec vous de l'Éthiopie. Samedi dernier, de hauts responsables de la région d'Amara dans le nord-ouest du pays et le chef d'état-major de l'armée, le général Skari Makonnen, ont été assassinés. Lundi, c'est le chef de la sécurité éthiopienne de la région, le général Assaminiu Tsigen, considéré comme responsable des assassinats du samedi, qui était abattu à son tour. Alors, qu'est-ce qui se passe en Éthiopie? Après 14 mois au pouvoir, le premier ministre réformateur Abiy Ahmed peut-il encore apaiser les tensions dans le pays? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous. Assez vite, Laurent Larcher, après cette séquence du week-end, on a parlé de tentative de coup d'État. C'est un putsch manqué qu'on a vu là, auquel on vient d'assister?
Alors écoutez, il est très difficile de le dire de manière certaine. Vous savez, l'Éthiopie est un pays compliqué, trimillénaire, dans lequel il se passe des choses visibles et des choses qui le sont beaucoup moins, surtout pour nous. Il y a un proverbe en bara, alors je me déporte en Afrique de l'Ouest, qui dit que les étrangers ont des yeux, mais ils ne voient rien. Et il est vrai qu'en Éthiopie, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, enfin pour lire exactement le jeu, les jeux de pouvoir de clan, aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors coup d'État manqué, effectivement, c'est en tout cas extérieurement ce que ça, c'est la lecture qu'on peut avoir, et c'est la lecture immédiate du régime actuel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une manière adroite et habile de la part du Premier ministre actuel de reprendre la main dans un environnement si complexe? Ou bien est-il vraiment victime d'un coup d'État, puisque quand il est arrivé au pouvoir l'année dernière, on espérait, enfin, il a été choisi pour essayer d'unir les divisés et les diviseurs. Et il a sans doute il n'a pas pris la mesure profondément de la volonté séparatiste et autonomiste de quasiment tous les groupes qui constituent ce pays.
Et puis par ailleurs, il avait déjà fait l'objet d'une tentative,
oui,
d'assassinat.
Absolument.
Laurent Larcher, juste après les premiers assassinats, les autorités d'Addis Abeba ont accusé le chef de la sécurité de la région Amara, donc ce général dont je parlais. Résultat, c'est lui qui, quelques heures plus tard, était tué. Est-ce que ces accusations sont justifiées? Et surtout, est-ce qu'il faut comprendre que ce pouvoir éthiopien, d'une certaine manière, se fait justice lui-même, alors même que lorsque le nouveau Premier ministre était arrivé, on se disait, voilà un nouveau Premier ministre réformateur qui va rompre avec l'exercice du pouvoir tel qu'on a pu le voir ces dernières années en Éthiopie.
Oui. En tout cas, pendant 14 mois, c'est vraiment l'image qu'il a donnée et les mesures qu'il a prises. Il a fait des choses absolument incroyables pour ce pays, libérer les prisonniers politiques, autoriser les anciens fronts de libération exilés à revenir en Éthiopie. Surtout, comme vous le savez, cette main tendue avec l'Érythrée, et donc cet accord de paix trouvé, et cette quasi ce réchauffement assez spectaculaire des relations entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Là, évidemment, on était devant, et aussi une réforme de la manière de gouverner ce pays. Comme je vous le savez peut-être, il a mis en place une parité exemplaire dans son gouvernement, avec le Rwanda, je crois que c'est les deux grands pays d'Afrique, où il a une totale parité du point de vue...
Et en plus, avec des femmes qui ont des postes importants.
Régaliens, c'est-à-dire qu'à la tête notamment du ministère de l'Intérieur, ce qui est quand même pas rien. Donc voilà, il y avait pas mal de choses de fait. Une volonté aussi, évidemment, de rassurer ses partenaires à l'extérieur, de jouer que l'Éthiopie reprenne une place un peu vraiment dans les relations de la sous-région comme lieu où on pouvait se retrouver et discuter, notamment pour le conflit énorme qui divise le Soudan du Sud, qui a aussi des impacts bien entendu sur l'Éthiopie. Donc oui, il était apparu comme étant le sauveur. Maintenant voilà, il a été peut-être très rapide, trop rapide. Il a éliminé de manière très habile ses anciens camarades du parti au pouvoir, notamment les Tigréens qui dirigeaient ce pays d'une main de fer depuis 1991. Donc quasiment tous les Tigréens se sont retirés dans le nord. Il n'a pas su pacifier les Amara, qui est la deuxième grande communauté qui compose l'Éthiopie. Les Amara, il faut bien le savoir, c'est quand même eux qui portent l'histoire de ce pays jusqu'à Meginsou.
C'est eux qui ont tenu le pouvoir quasiment jusqu'à même Abiy Ahmed.
C'était plutôt les Tigréens. Les Amara, c'est, je dirais, le cœur historique de ce pays. En fait, on doit revenir dans cette histoire, parce qu'encore une fois, c'est une histoire très millénaire. Mais l'histoire de l'Éthiopie, disons l'histoire antique de l'Éthiopie, commence autour du royaume d'Aksum, dans le nord, aujourd'hui les Tigréens. Ensuite, il se décale vers le pays Amara, où quasiment du 8e siècle jusqu'à Meginsou. Meginsou est aussi un Amara. Ils tiennent ce pays, donc avec royaume, empire, et puis ensuite dictature communiste. Et à partir de 1991, les Tigréens reprennent la main. Et ne quittent pas ce pouvoir, ils tiennent ce pays d'une main de fer, jusqu'à la nomination d'Abiy Ahmed en 2018.
Alors justement, qu'est-ce qui change à ce moment-là? En quoi est-ce qu'il bouleverse les équilibres politiques? Parce que ce
d'abord,
qu'on assiste aujourd'hui en Éthiopie, c'est clairement un regain de tension, vous en parlez beaucoup dans les différents articles qui ont été publiés dans La Croix, entre Amara, Tigréens, Oromos, il y a clairement un regain de tension. Dans quelle mesure est-ce que c'est lié à une transformation des équilibres politiques tels qu'ils existaient?
C'est sans doute lié à la puissance du pouvoir central. C'est-à-dire que plus le pouvoir central est fort, autoritaire, et plus le pays est tenu, et plus les velléités séparatistes sont cassées. Il faut savoir que Meles Zenawi, donc celui qui prend le pouvoir après Meginsou entre 1991 et 2012, date de sa mort, donc va vraiment imposer à la manière de l'empereur et à la manière de Meginsou un pouvoir très autoritaire avec un contrôle sur les esprits, sur l'opinion publique, la surveillance, la sécurité. Nous avions, nous, à l'époque, un correspondant qui était très connu, qui était Nicolas Hénin, Nicolas, à l'époque, était notre correspondant à Addis, et pour écrire, pour lui, c'était quand même très compliqué. Même dans ses communications, on devait faire très attention à la manière dont on devait se parler. Voilà, il y a toute cette tradition là,
c'est
toute l'histoire de l'Éthiopie. Dès que ce pouvoir s'affaiblit, je dirais la périphérie reprend ses droits et ses vérités autonomistes ou indépendantistes.
Donc d'une certaine manière, la main tendue d'Abiy Ahmed au groupe rebelle, parce qu'il a libéré des centaines de prisonniers politiques, il a signé des accords de paix avec un certain nombre de groupes rebelles, notamment le Front de Libération du Peuple Oromo, ce geste-là, en réalité, ne pouvait pas être un geste d'apaisement, précisément parce qu'en lâchant justement son contrôle, vous laissez filer les velléités sécessionnistes, séparatistes.
J'avais écrit un article en mars qui s'appelait « Le pari de la réconciliation » en faisant cela. C'était un pari. En plus, dans la théorie, dans la manière de penser d'Abiy Ahmed, c'est un homme tout à fait singulier dans le paysage, je dirais, politique. Il est protestant, par exemple. Enfin, il est évangélique, ce qui est une première dans ce pays qui est, comme vous le savez, à la fois orthodoxe, en tout cas dans son histoire et dans sa tradition. L'orthodoxie, c'est une église autocéphale, ancienne, enfin c'est l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, et dans sa partie plus à l'est, musulmane. Et là, on a l'apparition, l'émergence dans le paysage politique aussi, je dirais, de ces théologies oco, enfin je sais pas, de cette manière de... Enfin, avoir ce pied, dans le religieux et dans le politique. C'est un prêcheur aussi, Abiy Ahmed. Quand on l'entend dans ses discours, il prêche la réconciliation, mais exactement comme un pasteur, en parlant d'amour, de charité, de réconciliation, de pardon. C'est tout à fait étonnant. Je crois qu'il y croyait vraiment à cela. Mais il est confronté, il fait face à des histoires et des fractures, encore une fois, très, très, très longues, très lourdes. Et aussi à des traditions culturelles. Je ne suis pas sûr, par exemple, que les orthodoxes traditionnalistes ont vu dans cet oromo évangélique quelqu'un vraiment de fiable. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi, d'ailleurs, ces conflits, une identité religieuse qui revient à la surface de manière très nette. Et dans le monde musulman, mais aussi, je dirais, surtout dans le monde orthodoxe, où on entend à nouveau un discours très violent, très brutal. L'identité éthiopienne serait d'abord et avant tout orthodoxe et chrétienne.
Il y a des questions d'identité, il y a des questions confessionnelles, il y a des questions de répartition du pouvoir, mais il y a aussi des questions, j'allais dire, beaucoup plus concrètes de terrain, notamment autour du foncier. Oui. C'est aussi ça qui explique ces tensions intercommunautaires.
Maintenant, encore une fois, vous savez, il y a 9 provinces dans ce pays, 9 provinces qui sont plutôt à caractère ethnique, c'est l'un des gros problèmes autour d'Addis Abeba, qui est la crise oromo et la crise foncière. Là, vous avez tout à fait raison, qui provoque depuis 2015 des tensions très très fortes entre les oromo et qui se sentent dépossédés de leurs terres de la part de promoteurs et de la part du gouvernement d'Addis, qui, pour élargir la capitale, qui évidemment, enfin, c'est le pays, il y a plus de 100 millions d'habitants en Éthiopie, là, il y a une croissance, une poussée démographique très importante, de sorte que la capitale est obligée de s'étendre, s'étend où ? Sur les territoires libres des paysans, enfin les territoires où il y a plein d'immeubles. Donc il y a ici des promoteurs qui arrivent, qui achètent de la terre pas très chère ou qui expulsent, ce qui suscite une réaction très très violente, très meurtrie plutôt de la part des oromo, réaction très très violente de la part des autorités. Il y a eu plusieurs centaines de morts. Et là, c'est un point de fixation. Les Oromo aujourd'hui réclament Addis comme étant leur ville à eux, de la même manière que les Amara ont leur capitale à eux, ou bien les Tigréens ont Mekele comme capitale de la Tigrée.
Parlons peut-être, Laurent Larcher, du conflit avec l'Érythrée. Après plus de 20 ans de conflit qui a fait entre 80 000 et 100 000 morts selon les estimations, Abiy Ahmed a eu l'ambition de faire la paix avec ce voisin érythréen. L'année dernière, il y avait une visite historique entre les autorités des deux pays. Vous êtes rendu, vous, à Zalambassa, qui est la première ville éthiopienne après la frontière de l'Érythrée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est la situation à la frontière? Et est-ce qu'on peut dire qu'au fond, les deux pays sont, ça y est, dans une phase de réconciliation?
Alors, certainement. Cette réconciliation. Disons qu'il y a à nouveau, enfin, les relations sont quand même, se sont réchauffées de manière assez spectaculaire. Là où j'ai été, donc effectivement, j'étais à la ville frontière. Il y a deux postes frontières ouverts. Enfin, il y avait deux postes frontières ouverts, dont celui-ci. Mais quand j'y suis allé, en fait, il était fermé depuis le mois de décembre. Donc, il a ouvert 3 mois. Cela dit, pendant ces 3 mois, beaucoup des, en fait, comme c'est la même région, ce sont les mêmes cultures, les mêmes communautés, les mêmes familles, les familles se sont retrouvées. Beaucoup d'Érythréens sont venus dans la région pour retrouver leur maison, pour acheter les fermes de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et encore aujourd'hui, on sent cette couture de cette plaie en train de se cicatriser devant nous. Alors ensuite, la frontière est fermée. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus aller en Érythrée, comme on avait pu le faire entre le mois de septembre et le mois de décembre, pour une raison qui n'a pas été explicitée au gouvernement éthiopien. Abiy Ahmed, le Premier ministre, n'a pas demandé des comptes, mais l'Érythrée semble-t-il, est assez frileuse dans sa manière de tendre sa main avec l'Éthiopie. Chose que j'ai découvert aussi qui est assez étonnant, on voit les Érythréens comme des gens très très pauvres, il se trouve que leur argent, qui est le birre, vaut deux fois plus que la monnaie éthiopienne, de sorte que quand ils arrivent à Zambalossa ou à Mekele ou à Tigrade, qui sont les grandes villes de la région, ils sont capables d'acheter tout. Enfin, du coup, les prix augmentent, notamment le prix de l'immobilier. Il y a toute une bourgeoisie érythréenne qui s'installe dans la région, qui crée là à nouveau des déséquilibres du point de vue des rapports entre les uns et les autres. Mais voilà, c'est plutôt assez calme. Du côté éthiopien, ils sont plutôt très rassurés. Moi, j'ai vu les soldats qui étaient là depuis, qui se sont succédés ici depuis 20 ans, contents et capables, même aujourd'hui, malgré la fermeture de la frontière, de discuter avec leurs camarades érythréens autour de barbecue et de bière, discrètement. Mais ces relations existent.
Alors, si les choses vont mieux, c'est vrai qu'au global, la situation est délicate. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de déplacements. D'ailleurs, je crois qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont aujourd'hui déplacées à l'intérieur du territoire. Vous parlez dans l'un de vos articles, Laurent Larcher, de l'Éthiopie, et vous la comparez à la Yougoslavie, à la veille de son éclatement. Jusqu'où est-ce qu'on peut comparer les deux? Et est-ce qu'on pourrait assister dans les années à venir à une forme de balkanisation de ce territoire? C'est ça qu'il faut craindre?
En tout cas, je pense qu'il faut y songer, effectivement. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, et puis les comparaisons sont toujours à mener avec beaucoup de nuances. Mais on est devant des situations qui sont, je crois, assez comparables, à savoir un pays qui s'est constitué par la force, tenu par un pouvoir central autoritaire, un parti unique, et qui la tête décapitée ou affaiblie est retravaillée par là ou les périphéries, parce que voilà, en fait, en Éthiopie, il n'y a pas une périphérie, mais des périphéries. Avec ces cultures qui ont leur propre histoire, leur propre langue, leur propre tradition, leur propre religion, d'autant qu'il faudrait aussi y voir un peu plus clair dans le jeu, peu clair si je peux dire, des grandes puissances sous-régionales. Vous savez, ce pays est entouré de pays très compliqués, à commencer par la Somalie, mais aussi par le Soudan. Vous avez aussi le grand frère, ou le cousin plutôt, ou le faux jumeau, l'Égypte, qui ne voit pas forcément même si officiellement, bien entendu, l'Égypte a intérêt à avoir une Éthiopie forte et stabilisée, mais n'a pas forcément intérêt à... Enfin, il y a une rivalité entre ces deux pays qui est une rivalité historique dont il ne faut pas, je dirais, oublier les choses.
Donc ils ne sont pas forcément favorables à une forme de stabilisation
ils
politique
le sont officiellement,
du pays.
Bien entendu.
Mais peut-être beaucoup moins que des acteurs comme l'Arabie Saoudite ou les États-Unis qui, eux, s'étaient engagés peut-être davantage, notamment dans la réconciliation avec l'Érythrée.
Absolument. Alors, vous avez ces puissances-là qui font un jeu important. Il y a aussi la Chine et aussi le Qatar qui essaie de jouer le jeu ou d'entrer dans ce grand jeu de la Corne de l'Afrique.
Tout dernier mot, Laurent Larcher. Il y a presque 25 ans maintenant, l'ancien Premier ministre Meles Zenawi avait mis en place une constitution instaurant un ethno-fédéralisme. Elle prévoyait donc que les régions aient un droit à l'autodétermination, à la sécession, et c'est d'ailleurs ce qui avait conduit à l'accession de l'Érythrée à la dépendance. Jusqu'où est-ce qu'on peut dire que ce modèle, ce fédéralisme ethno-linguistique, il est responsable en partie de cette situation?
C'est sans doute la grosse erreur de Meles Zenawi, c'est d'avoir mis en place ce système. Je pense qu'il l'a fait parce que d'abord, rappelez-vous, lorsqu'il renverse Meginsu en 1991, il a à tête une plateforme qui réunit des fronts de libération des différents groupes communautaires. Lui, il est tigréen, mais les tigréens ont réussi à fédérer, un peu à la manière de Jean Moulin, si je me permets cette comparaison assez osée, les différents groupes de résistants en France. Il y avait différents groupes de résistants à Meginsu, mais à composant ethnique, enfin ou communautaire, il devait tenir compte de cela. Il devait forcément tenir compte de l'aspiration au moins autonomiste des uns et des autres. Mais il pensait, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, qu'en restant ferme, en assurant au pouvoir central sa force de contrôle sur l'ensemble du territoire, le tout pouvait tenir. Et ça a tenu jusqu'à sa mort.
Merci beaucoup, Laurent Larcher, de nous avoir éclairé sur cette situation en Éthiopie dont vous revenez. Je rappelle que vous êtes chef du service Afrique au journal La Croix. Et puis j'indique également pour nos auditeurs que vous avez signé, c'était au printemps dernier, au Seuil, Rwanda, il parle, témoignage pour l'histoire. Merci infiniment, Laurent Larcher.
Je vous en prie.
Yetne
Allez, on quitte l'Éthiopie, on va s'intéresser au G20 d'Osaka, de l'Iran à la Corée du Nord, les dossiers sensibles du G20 d'Osaka, c'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, puisque ce matin s'ouvre donc le sommet du G20, l'occasion pour les 19 premières économies mondiales, 19 pays plus l'Union européenne, d'évoquer les sujets de discorde, de tenter de rassembler les conditions d'un dialogue. Et cette année, les sujets de friction ne manquent pas. Iran, Corée du Nord, mais aussi la guerre commerciale entre Washington et Pékin, sans oublier le plus essentiel peut-être pour l'avenir du monde, le dérèglement climatique.
Il y a pour moi deux sujets très importants dans ce G20 qui s'annonce. Le premier, c'est le commerce international. Nous sommes à un moment de tension très forte entre les États-Unis et la Chine. Et donc, je souhaite que nous ayons des conclusions du G20 et une discussion qui permettent l'apaisement de ces tensions. Et je veux qu'on ait le texte le plus ambitieux à ce G20 pour le commerce, parce que c'est le seul moyen de sortir par le haut des tensions et des conflictualités qui existent. Le deuxième sujet, c'est le climat. Moi, je tiens très clairement à ce que nous ayons une ambition climatique forte.
Voilà, une ambition climatique forte, demandait Emmanuel Macron en arrivant au Japon. Benjamin Hautecouverture est avec nous ce matin. Bertrand Badi également, qui est arrivé dans notre studio. Merci Bertrand Badi d'être avec nous ce matin.
Plaisir.
Je rappelle que
plaisir,
vous êtes
bonjour.
Professeur des universités à Sciences Po Paris, enseignant-chercheur associé au Centre, au CERI, au Centre d'études et de recherche internationale. Et comme je le dis à chaque fois, le parrain de cette émission, c'est un plaisir de vous accueillir.
Merci cher filleul.
Marc Semot, on commence avec vous. Alors, j'ai regardé un peu l'année dernière pour me remettre un petit peu les choses en place. Donc c'était en Argentine l'année dernière, ce G20. Déjà à l'époque, les discussions entre les États-Unis et la Chine sur la guerre commerciale avaient un petit peu accaparé les débats. Il en était sorti une déclaration finale sans véritable relief, dans laquelle on avait soigneusement évité même le terme de protectionnisme pour ne pas trop embêter les Américains. Sur le fond des problèmes, aucune solution n'avait été trouvée. Washington et Pékin n'avaient pas signé d'accord. Cette fois-ci encore, on évoque la possibilité peut-être d'une trêve, voire d'un mini-accord, mais rien n'est garanti. Bref, on a envie de croire que le G20 peut changer les choses, et en même temps, on doute beaucoup, Marc.
Absolument. Le rôle d'un G20 est surtout la photo, surtout déclamatoire. Alors, à l'origine, le G20 a été créé lors de la crise de 2008 pour affronter ces grandes questions économiques, entre les 19 premières économies mondiales plus l'Union européenne. Mais le grand intérêt du G20, c'est que tous les dirigeants sont là. Alors, il y a Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Angela Merkel, Emmanuel Macron, et on va parler de tous les problèmes, dont notamment le problème aujourd'hui le plus chaud, il y a la Corée du Nord, mais surtout l'Iran. Et comment faire baisser les tensions dans le Golfe. Alors Emmanuel Macron l'a dit, on fera le maximum pour que personne ne commette l'irréparable. Alors le président iranien a appelé son homologue français Emmanuel Macron à l'avant-veille du sommet. La France, qui depuis 2003 a joué un rôle clé dans l'accord sur le nucléaire iranien, signé finalement à Vienne en 2015, est crédible à Téhéran. La fermeté française, pendant ces négociations face à une administration Obama prête à beaucoup de concessions, permet aussi à Emmanuel Macron d'être vraiment crédible vis-à-vis de Donald Trump. En effet, Paris est bien conscient des limites de l'accord, mais plutôt que tout balayer, estime qu'il faut le compléter en prolongeant le gel et les contrôles sur le programme nucléaire après 2025, négocier pour limiter le programme balistique iranien et bloquer l'expansionnisme régional de la République islamique. Donc, l'objectif est le même que Washington, c'est la méthode qui diffère. Et alors aujourd'hui, trouver un compromis, la voie est très étroite. Ce qu'on peut imaginer, par exemple, et c'est sur quoi un peu on travaille déjà au G20, c'est par exemple que les Américains ferment un peu les yeux sur certaines exportations de pétrole, notamment vis-à-vis de la Chine et de l'Inde, en échange de quoi l'Iran libérerait un certain nombre de détenus occidentaux, ils en ont une vingtaine. Alors voilà, c'est très étroit, mais c'est urgent, parce que bientôt, l'Iran va dépasser les stocks autorisés d'uranium faiblement enrichi. Il menace de reprendre le 7 juillet l'enrichissement à un taux beaucoup plus fort, et là, ça serait vraiment une crise majeure.
On va évidemment beaucoup parler de l'Iran aujourd'hui, mais Bertrand Badi, je vais commencer avec vous. Le G20, alors je l'ai sorti justement, la photo dont parle Marc Semot, c'est celle-ci, la photo du G20, la photo de famille. Alors on y voit effectivement Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, Donald Trump en grande discussion avec Mohamed Ben Salman, mais au-delà de cette photo, ça sert à quoi le G20?
Alors justement, il faut se rappeler une chose, c'est que le G20 n'a jamais été, pas plus d'ailleurs que le G7 et pas plus que le Conseil européen au XIXe siècle, une instance de décision. Ce n'est pas non plus une instance de négociation. C'est une instance de concertation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la concertation? Ça veut dire on se réunit, on échange des points de vue, on voit quelles peuvent être les convergences possibles, et après, eh ben, on est hors du G20. C'est-à-dire, le prolongement se fait dans la logique des diplomaties ordinaires, j'allais dire. Seulement, voilà, tout le problème est un problème de raccordement entre la concertation et la négociation. Dans un système normal, la concertation, c'est un stade préliminaire à la négociation. C'est-à-dire, on essaye de trouver des éléments de convergence qui permettent de construire une négociation sérieuse. C'est un peu comme cela que le G7, plus que le G20 d'ailleurs, a pu, dans ses moments fastes, tourner de manière, sinon efficace, du moins utile. Bon. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a changé de logiciel diplomatique depuis l'élection de Trump. Pourquoi ? Parce que la diplomatie trumpienne, ce n'est pas une diplomatie de négociation, c'est une diplomatie d'affichage, ou on pourrait dire encore diplomatie électorale. C'est une diplomatie qui consiste à parler, qui consiste à témoigner, qui consiste à montrer. Et
la diplomatie intérieure, d'une certaine manière.
D'un certain point de vue, oui. Et cela veut dire quelque chose de grave, c'est qu'il n'y a pas de branchement. Il n'y a pas de branchement entre la diplomatie rhétorique et la négociation. Et du coup, ce qui risque de se passer dans ce G20, c'est exactement la même chose que l'an dernier, effectivement, à Buenos Aires, c'est-à-dire des affichages. Il va y avoir beaucoup d'affiches. Il risque d'y avoir des tweets un peu folklore, des prises de bec intéressantes. Il y a déjà des injures qui se sont accumulées. Hein. Madame Merkel en a pris pour son grade et à peu près tout le monde. Bon. Le problème, c'est que tout ceci ne débouche pas, n'est pas, en tous les cas, destiné à déboucher sur une négociation. Et j'ajoute quelque chose d'extrêmement important, petite divergence amicale avec Marc Semo, c'est que le dossier iranien, il est clos. Il est clos parce qu'il n'y a rien à négocier. À partir du moment où on choisit une stratégie d'exit, on choisit également une stratégie de clôture. Dans une stratégie d'exit, celui qui reste tout seul dans la pièce, il n'a pas d'autre choix que de montrer sa résilience, sa capacité de résister. Mmh. Donc, effectivement, on n'est pas dans une situation de renégociation. Ça aurait pu être le cas s'il n'y avait pas eu de stratégie d'exit. Mais s'il n'y avait pas eu de stratégie d'exit, eh bien, Trump n'aurait pas pu se faire plaisir ni faire plaisir à sa base électorale. À partir du moment où on est dans ce type de séparation, y a rien à faire que continuer à constater la situation, peut-être de bord du gouffre. J'aime pas beaucoup cette formule. Je pense que tout simplement, il se passera rien et il continuera à rien se passer. Et ça, c'est un autre aspect des G20 et du mini-latéralisme, c'est-à-dire se mettre d'accord sur à minima, c'est-à-dire de ne rien faire et d'éviter effectivement ce qui pourrait faire déraper.
Benjamin de Couverture, est-ce que vous êtes d'accord avec le bilan, le constat de Bertrand Badi, à savoir, de toute façon, Trump n'est absolument pas dans une position de négociateur, il ne veut pas négocier, et d'une certaine manière, le dossier iranien, il est déjà clos.
Alors, juste avant de répondre à cette question précise, je reviens sur le G20 comme forum de concertation. Effectivement, outre que c'est un forum de concertation et non pas de négociation, ce qui est parfaitement exact, il s'agit en plus d'un forum de concertation économique et financière. Perfect. Et dans l'ordre du jour de cette année, il n'y a strictement rien qui rapproche les 20 États présents, plus l'Union européenne, de dossiers de sécurité internationale. À la limite et à la marge, Donald Tusk a parlé hier de l'environnement international dégradé, l'environnement stratégique dégradé et le fait que l'Iran est une question qui sera certainement abordée off the record et dans les couloirs. Mais rien à attendre du G20 sur ce sujet en tant que tel, et le tout se fait en particulier pour les États occidentaux, européens, libéraux, la Corée du Sud et le Japon sur fond de défense d'un ordre international fondé sur des règles et basé sur un multilatéralisme efficace, etc. Très bien. Pour le reste, il n'y a donc rien à en attendre. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, et nous allons y venir plus précisément, je pense, qui est la réunion importante internationale sur le sujet iranien, c'est à Vienne. À Vienne, il y a une convocation aujourd'hui de la commission mixte du plan d'action global conjoint, cet accord nucléaire du 14 juillet 2015 que les États-Unis ont dénoncé le 8 mai 2018. Et c'est là, aujourd'hui, que les parties prenantes, c'est-à-dire le E3, EU, plus 2, puisque les États-Unis n'en sont plus, ne sont plus de cette commission, vont discuter de ce qu'il est capable, de ce qu'il est possible de faire en l'état actuel des choses.
Qu'est-ce qu'on peut faire sans les États-Unis?
C'est-à-dire, attendez, effectivement, et là je réponds à votre question. Effectivement, comme le disait Bertrand Badi, à une stratégie affichée par les États-Unis de renégociation, qui en réalité est une stratégie d'exit, puisque en poussant dans un corner les Iraniens et en les empêchant de revenir entre guillemets à la table de négociation, les États-Unis ne permettent pas le lancement de cette négociation. Donc il n'y aura pas de négociation du point de vue des Américains. En revanche, ce que les Iraniens attendent des Européens, des Russes et des Chinois aujourd'hui à Vienne, c'est qu'on leur dise comment est-ce que vous allez enfin faire pour nous soutenir au-delà d'un stex, au-delà de la diplomatie, de soutien politique.
Sauf qu'on doute un tout petit peu de la volonté politique, précisément des autres acteurs, de les soutenir.
Ah non, la volonté politique n'est pas mise en doute. En revanche, les moyens économiques et financiers le sont, totalement.
Ma pensée là-dessus. Évidemment, on ne va pas négocier, renégocier, même recommencer ou faire une ébauche de renégociation de l'accord sur le nucléaire iranien au G20. En revanche, là où le G20 a un rôle, c'est que comme il y a tout le monde, on peut justement voir dans l'immédiat ce qui permet de faire baisser la tension dans le Golfe. Ce sont deux choses différentes. C'est complémentaire.
Il n'y a pas les Iraniens. Il n'y a pas les Iraniens.
Mais ce qu'on peut
avoir. Ça peut servir pour régler le dossier, oui.
C'est justement les Européens, parce qu'il y a cette volonté politique des Européens, et notamment de la France, comme je le disais, d'arriver à trouver quelque chose qui permette, dans l'immédiat, de faire des petits gestes et d'enclencher quelque chose, pour qu'ensuite, alors dans d'autres instances, on puisse commencer à discuter éventuellement sur le nucléaire iranien. Mais c'est effectivement le problème d'un lieu de concertation. C'est le jeu de mots est très facile, mais le G20, c'est le G20, V-A-I-N, c'est un truc que, à peu près, à chaque G20, il y a la tentation de faire ce titre.
Bertrand Badi, c'est vrai que les Iraniens ne sont pas là. J'indique quand même que le 12 juin dernier, Shinzo Abe s'est déplacé en Iran. Il a rencontré le président Rouhani et même le guide suprême. C'est pas souvent que le Japon se place en médiateur dans les conflits qui peuvent exister du côté du Moyen-Orient, c'est d'ailleurs peut-être le signe que les choses sont en train de changer. Mais en tout cas, effectivement, Marc Sémon nous dit tout le monde est là, sauf les Iraniens.
Oui, effectivement. Je voudrais, à partir de là, apporter une nuance dans la nuance. C'est-à-dire que, effectivement, les réunions de concertation, les réunions plénières de concertation, vous avez tout à fait raison de dire qu'ils, de surcroît, portent sur les questions économiques et pas sur les questions politiques, même si, dans l'histoire du G7, lorsque Madame Thatcher et Monsieur Reagan sont arrivés au pouvoir au nom de l'ultralibéralisme, il ne faut pas non plus discuter des questions économiques. Donc c'est à ce moment-là que, ne sachant pas trop quoi faire, on a rouvert les dossiers politiques. C'était en pleine crise naissante de l'Afghanistan. Mais ça veut dire que de toute façon, des réunions plénières, il n'y a pas grand-chose à attendre. Des réunions bilatérales qui peuvent se faire dans les couloirs, au restaurant, à la cafétéria ou je ne sais où, là, effectivement, les choses sont un petit peu différentes, c'est la nuance que je voulais apporter, mais il ne faut pas attendre de ces réunions bilatérales, ou plus exactement de la bilatéralisation de cette question iranienne, des miracles, ni même l'amorce d'une négociation. Là, c'est totalement bloqué. Ce qui peut se passer, c'est très courant en relations internationales, c'est que cette bilatéralisation permettent, disons, d'éviter le pire, c'est-à-dire de contrôler, de faire passer des messages, de contrôler les situations de bord du gouffre pour qu'elles ne dégénèrent pas.
C'était le sens de la visite de Shinzo Abe, qui a priori est un médiateur. Alors, je ne sais pas s'il a été envoyé, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas, Donald Trump a poussé pour qu'effectivement Shinzo Abe se déplace en Iran avant le G20.
Oui, enfin, moi, je suis moins convaincu.
C'est pour garder un canal justement de discussion.
Le Japon, ça, on ne le dit pas assez, a une longue tradition de présence en Iran. Qui correspond à une histoire et qui correspond aussi à un besoin plus prosaïque d'approvisionnement. Et que je pense que le sens de la visite de Shinzo Abe, c'est de la part du Japon de montrer qu'il ne se désintéresse pas de la question iranienne et d'essayer de traverser dans un contexte pas très facile, ce moment de relation entre le Japon et l'Iran. Mais le véritable problème, c'est effectivement qu'est-ce que négociation veut dire dans le monde actuel. Négociation, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord l'effacement du bilatéral en faveur du multilatéral. Même si la négociation qu'Obama avait amorcée avec les Iraniens était au départ bilatérale, faut pas l'oublier, sous les auspices d'Oman qui avait reçu les deux protagonistes. La véritable dynamique de cette négociation avait été multilatérale. Or, le multilatéralisme, ni Trump, ni Bolton, ni personne de l'administration américaine ne veulent en entendre parler. C'est déjà un premier élément d'effacement. Deuxièmement, quand vous négociez, vous n'avez de chance d'aboutir à un résultat que si vous ménagez un certain nombre de portes de sortie. Si toutes les portes sont verrouillées, la négociation, c'est du surplace, n'est-ce pas ? Or, pour l'instant, toutes les portes sont verrouillées. Et effectivement, ce qui est un peu gros dans cette crise américano-iranienne, c'est ce lancement spectaculaire d'une campagne de stigmatisation, de dénonciation de l'Iran, sans avoir un objectif clair de transformation de cette situation en négociation possible. D'ailleurs, il n'y a rien à négocier, sinon se regarder, s'invectiver, et surtout ne pas oublier une chose qui est absolument essentielle, c'est qu'en fait, cette situation fait beaucoup plus le jeu de l'Iran que celui des États-Unis, parce que de quoi rêve l'Iran déjà du temps du Shah ? C'est d'être reconnu comme une puissance régionale. L'Iran n'a jamais été autant puissance régionale que depuis qu'elle est ainsi montrée du doigt, stigmatisée, attaquée, etc. Et la Russie se définit par rapport à elle, et la Turquie se définit par rapport à elle, et l'Europe se définit par elle. Donc ça, c'est gagnant. Mais à l'intérieur de l'Iran, à qui M. Trump a-t-il fait son plus beau cadeau ? Eh bien, aux conservateurs, mettant Rouhani définitivement en position de marginalité.
Benjamin de Couverture, puisque toutes les portes sont fermées, puisqu'il n'est pas question de négocier, qu'est-ce que vous comprenez, au fond, de ce que cherche à faire l'administration américaine ? Un changement de régime, parfois c'est ce qu'on entend, et puis finalement on fait volte-face, on dit que c'est pas ça. Que veut l'administration américaine avec l'Iran ? Vous comprenez, vous ?
Moi, je suis comme tout le monde, si vous voulez, je peux formuler des hypothèses, mais je serais bien en peine de savoir qui, ne serait-ce qu'au département d'État, est capable de savoir exactement ce que veut la Maison-Blanche et elle est très proche du président américain, puisque les signaux sont contradictoires. Il y a un an et demi, la France en particulier, mais d'autres pays, partageaient avec les États-Unis, c'était entre février et mai 2018, trois idées. L'idée, un, qu'il faut entamer une renégociation de l'accord de juillet 2015 à l'issue de son échéance, différentes échéances en fait, 2021, 2023, 2025, comme Marc Semo l'a rappelé. Deuxièmement, aborder la question de l'influence régionale iranienne sur le plan de la sécurité. Et trois, la question balistique. Je vous rappelle que la question balistique est l'oubliée de l'accord de juillet 2015 parce que les Iraniens ont fermé la porte en janvier 2012. No way, on ne parle pas de ce sujet-là. Et pourtant, c'est devenu, et le renseignement américain en sait quelque chose, un vrai sujet de préoccupation pour les Occidentaux, mais pour les voisins aussi, depuis 2017 et 2018, d'une manière un petit peu d'ailleurs contrevenante aux obligations de l'Iran dues au titre de la résolution du Conseil de sécurité 2231 qui a été prise dans la foulée de l'accord de juillet 2015 et qui entérine cet accord. Mais nous y reviendrons peut-être. Le volet balistique iranien, si vous voulez, est un facteur explicatif de la position très dure américaine depuis un an. Bien. Ces trois points étaient partagés par les Européens, la France en particulier, surtout d'ailleurs, qui est bien montée au créneau sur ce sujet, et les Américains. En revanche, comme vous le disiez, Marc, tout à l'heure, il y a une différence de méthode. C'est-à-dire que le président Macron n'arrête pas de dire « lançons ces trois chantier de renégociation avec les Iraniens. Ça n'a pas été faute d'ailleurs de le faire depuis quelques mois, mais avec une fin de non-recevoir à Téhéran. Et dans le même temps, les Américains empêchent de le faire. Et donc on se pose la question de savoir quel est l'agenda américain. Quand je regarde bien les choses, de manière, si vous voulez, très simple, en retirant un petit peu toutes les scories de ce débat, je me dis qu'effectivement, l'hypothèse qui aujourd'hui est une hypothèse possible, c'est un, que effectivement les faucons autour du président américain qui souhaite le changement de régime sont peut-être en train de gagner des points qu'ils ne gagnaient pas il y a encore quelques mois. Et deux, que le président américain est en train de se donner la possibilité, je pèse bien mes mots, juste la possibilité d'une option de frappe militaire plus tard dans le timing électoral national, le timing électoral américain, à partir de la fin 2019 jusqu'à novembre 2020, si jamais à ce moment-là, l'électorat américain de Donald Trump juge qu'il est légitime d'aller frapper les Iraniens.
Oui, et il a dit qu'on peut faire une guerre très rapide, ça ne va pas durer longtemps.
Absolument. Et que fait-il en ce moment? Il se donne le rôle, il donne aux États-Unis le rôle de la victime face à l'agresseur. On l'a vu dans l'histoire du drone. Si plusieurs événements comme ça devaient se multiplier dans les mois à venir, alors il pourrait engranger des points pour légitimer une action militaire. Et à ce moment-là, ça, on le sait bien, dans l'histoire, les Américains continuent de voter pour un président qui a entamé une guerre. Et il aura possiblement plus de chances, même si c'est un pari, d'être élu et d'avoir
donc
un deuxième mandat.
Après avoir retiré les troupes, là-dessus qu'il avait joué durant la campagne, il réengagerait...
Mais je dis juste que c'est un scénario.
Sans mettre de troupes au sol, l'Iran, c'est quand même beaucoup plus gros.
Bien sûr.
Comme population, comme superficie que l'Irak, c'est une invasion terrestre.
Non, c'est qui n'est pas envisageable, en l'état, bien entendu. Et après, nous parlerons peut-être d'autres choses, qui sont les frappes de contre-prolifération que les Israéliens, cette fois, pourraient mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de Natanz et d'Arak si l'installation de Lourdes est reprise comme le menacent les Iraniens.
Bertrand Badie, puis ensuite on va dire un mot sur la Corée du Nord. Bertrand Badie.
Oui, c'est effectivement une hypothèse à retenir. Ça fait partie des scénarios possibles. Moi, je n'y crois pas beaucoup, en tous les cas, à partir de mon fauteuil et de mon bureau, parce que se lancer dans une aventure de ce type, c'est, pour reprendre la formule que j'employais tout à l'heure, une impasse. C'est-à-dire, effectivement, on ne décrète pas une guerre, même sous forme de frappe, avec l'Iran, avec l'idée qu'il y a un scénario de sortie qui vous fera apparaître comme étant le vainqueur de l'affaire.
Sauf que si vous vous contentez de frappes aériennes, vous n'avez pas besoin de sortir, de fait.
Il faut que ces frappes aient un effet, il faut qu'elles débouchent sur une victoire politique. Je veux dire, toute action militaire n'a d'intérêt, n'est bénéficiaire qu'à partir du moment où elle débouche sur un résultat politique utile à celui qui l'a lancé, et en tous les cas... plus avantageux que les coûts qu'il implique. Or là, on ne voit pas. On ne voit pas du tout comment une telle chose serait possible.
Elle peut se faire auprès de son électorat. C'est-à-dire, regardez, j'ai frappé, j'ai puni les Iraniens.
Alors on revient à la case départ, c'est-à-dire on parle à l'électorat. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on parle aussi à deux autres types d'acteurs. Premièrement, il ne faut pas oublier que les États-Unis, quel que soit le régime, sauf peut-être du temps d'Obama, ont toujours une idée en tête, qui est énorme, qui est « the greater Middle East », c'est-à-dire refaçonner le Moyen-Orient comme on le souhaite, etc. Et pour avancer dans cette perspective, Trump a mis en place un système qui est cette alliance étrange, Tel Aviv, Riyad, Washington. Il faut la faire vivre. Cette alliance ne peut vivre, comme le disait M. Carl Schmitt, qu'à partir du moment où elle se dote d'un ennemi commun qui lui donne un sens. Plus, effectivement, on gratte sur l'Iran, plus on rapproche ces trois partenaires. Et puis, il faut parler aussi un peu au monde, parce que ces caprices absolument incroyables de ce monsieur qui, 10 minutes avant de lancer l'attaque, s'aperçoit que, tiens, ça pourrait faire des morts, c'est quand même une histoire assez incroyable, eh bien, là aussi, c'est de la rhétorique. Et derrière cette rhétorique, il y a quoi? Il y a un message envoyé à peu près tout le monde, parmi les grands dirigeants du monde, qui dit, écoutez, c'est moi et moi seul qui décide. Et vous êtes soumis à mes caprices. Voilà, c'est cela, en quelque sorte, la rhétorique diplomatique trumpienne. C'est pas du tout une stratégie. C'est pas une stratégie. Il faut pas l'analyser comme telle.
Alors, comme chaque vendredi, on a un partenariat avec le Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. On publie un dessin qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors on se souvient l'année dernière, vous nous aviez parlé de tango, et là cette fois-ci il est question de sumo.
Et oui, parce que c'était l'Argentine, aujourd'hui c'est le Japon, et oui je sais, vous allez me dire, certaines métaphores sont parfois, disons, attendues, mais en matière de caricature, il faut dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors celle-ci est signée Luc de Meschmacher, un dessinateur de presse belge, qui vient tout juste d'intégrer l'association Cartooning for Peace. Il signe ses dessins de son pseudo O.Secoer, ce qui sonne pour les francophones comme un au secours. Je ne sais pas exactement quel est le message, mais en tout cas, c'est fait exprès. Alors, on est tout de suite frappé par la délicatesse et la précision du coup de crayon de O.Secoer. La scène n'est pourtant pas tendre. Il s'agit d'un corps à corps entre deux lutteurs de sumo figés ici en pleine action. Deux lutteurs dans la plus pure tradition japonaise, corpulents à souhait et bien sûr presque nus, à l'exception d'un mawashi, cette bande de tissu serrée autour de la taille et de l'entrejambe, seule prise autorisée durant les combats. Des mawashi Kobayashi, peu traditionnel cela dit, puisque l'un est à l'effigie du drapeau américain et l'autre du drapeau nord-coréen. Et oui, nos deux sumos ne sont autres que le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce dessin date d'il y a pile un an, lors du sommet entre les deux hommes à Singapour. Alors, même taille, même corpulence, c'est intéressant de voir que Osekoer a choisi de représenter les deux dirigeants au même niveau, en quelque sorte. Le pays le plus puissant de la planète d'un côté, le territoire le plus isolé du monde de l'autre, mais, néanmoins heureux détenteur d'un arsenal nucléaire lui permettant de jouer dans la cour des puissants, voire de faire jeu égal avec eux. Une lutte d'homme à homme, pied à pied, c'est bien ce que représente ce dessin et c'est précisément toute la stratégie des Kim depuis le grand-père Kim Il-sung. Quant à l'issue du combat, eh bien, elle semble très incertaine. Les voilà qui se sont empoignés fermement. Le sumo Trump a même réussi à caler son genou contre le ventre dodu du sumo Kim, mais celui-ci de sa main droite lui empoigne presque le visage. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté ou visionné un combat de sumo, Florian. C'est de la puissance contenue, canalisée, ritualisée. Les combats sont extrêmement courts, quelques minutes à peine. C'est d'une grande intensité, de la grâce, de la maîtrise, du sacré même. Autrement dit, si on en revient à Trump et Kim, finalement, peut-être que la métaphore, pour une fois, n'était pas la bonne.
Quelques minutes, vous êtes gentil. C'est le plus souvent quelques secondes même, Mélanie. Réaction peut-être sur la Corée du Nord. Benjamin Haute-Couverture, vous êtes un spécialiste des questions nucléaires. Sur la Corée du Nord, il y a eu évidemment cette rencontre historique entre Trump et Kim Jong-un. Il va d'ailleurs, Trump, aller du côté de la Corée du Sud juste après le G20. Est-ce qu'on peut attendre là aussi des avancées? Je crois qu'il y a une lettre qui a été envoyée à Kim Jong-un, qu'on a jugée excellente de la part de Pyongyang, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on se dit, mais tout ça pour ça, fait, est-ce que les choses vont vraiment avancer? La dénucléarisation de la Corée, ça vous paraît possible?
Alors, moi, non. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui, depuis fort longtemps, disent que cette histoire de dénucléarisation de la Corée est pliée depuis la fin des années 1990, à peu près au moment où la stratégie est prise par le père du leader actuel de doter de l'arme nucléaire la politique de sécurité et de défense du régime de manière définitive. La stratégie est pour le coup une vraie stratégie tout à fait nourrie, documentée sur le long terme du régime et du petit-fils aujourd'hui, c'est de faire de la Corée du Nord un État doté de l'arme nucléaire, qui le soit comme tel et qui le soit reconnu. Mmh. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que ce sommet fut historique. Ce qu'il y a d'historique dans le sommet de Singapour, c'était d'avoir avalisé en creux et en négatif le statut de la Corée du Nord comme État nucléaire définitif. Et l'avatar que constitua le sommet d'Hanoï et son échec, naturellement, n'est venu que confirmer le seul objectif des Kim et du Kim en tête aujourd'hui, qui est d'afficher un, qu'il parle avec la première puissance mondiale, comme il parla dans le passé avec l'URSS et avec la Chine, et deux, qu'il en parle comme deux États nucléaires de fait. Mmh. Et quand on parle de dénucléarisation, pour finir là-dessus, Kim est parfaitement d'accord avec la dénucléarisation, comme d'autres pays dotés le sont, quand tout le monde aura des armées, quand les États-Unis auront des armées, quand il n'y aura plus d'ICBM qui seront,
susceptibles
d'envoyer, alors nous parlerons tous ensemble du désarmement général et complet. Bravo, nous sommes tous des États dotés de l'arme nucléaire, et entre grands, nous parlons entre nous. Voilà ce que ça veut dire. Et de ce point de vue-là aussi, les Américains n'ont pas, ou plutôt les Américains ont, mais Trump n'a évidemment pas d'autre stratégie en Corée du Nord que celle d'une rhétorique qui consistait à dire au retour de Singapour, ça y est, il n'y a plus de problème nucléaire avec la Corée du Nord, et continue sans doute aujourd'hui de le dire.
Merci beaucoup en tout cas Mélanie Chalandon. On publie évidemment ce dessin sur les réseaux sociaux. Bertrand Badie, Emmanuel Macron, le dossier du climat, on l'a vu quand il est arrivé au Japon, il a mis une certaine pression, disons, sur cette question du climat. Il dit qu'il ne signera rien si on n'évoque pas cette question, si on ne parle pas des accords de Paris. On voit pas très bien les États-Unis plier aux demandes d'Emmanuel Macron. On voit aussi la manière dont Emmanuel Macron essaye de rassembler les Européens, mais aussi d'autres pays. Il y a eu un rendez-vous, notamment une réunion à laquelle Justin Trudeau a participé. On voit qu'il y a un bloc qui est en train de se former comme ça pour essayer d'éviter que les États-Unis ne pousse d'autres pays à sortir de l'accord de Paris, comme par exemple le Brésil. Est-ce que vous pensez que cette stratégie d'Emmanuel Macron peut fonctionner sur une question qui, on n'en a pas encore parlé, mais un tout petit peu essentielle, celle du dérèglement climatique en réalité, hein ?
Oui,
et qui est une question politique.
Nous sommes bien d'accord. Ceci dit, deux choses. La première, c'est, pour en revenir à cette fameuse diplomatie rhétorique,
quelle est la capacité de pression d'initiative de cette nature face à une diplomatie rhétorique. Au contraire, la diplomatie rhétorique s'en trouve servie. C'est-à-dire, ce que va faire M. Trump, c'est de se retourner vers son électorat en disant, vous voyez, il m'intimide pas, je n'ai rien lâché de ce que je vous avais promis. Donc, il faut voir que ce genre de menace, de pression exercée sur un acteur qui n'accomplit pas une diplomatie de négociation, mais une diplomatie d'affichage, est quasiment nul.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, si vous permettez.
Ah
bah, je vous en prie, allez-y.
Je me demande derrière tout cela s'il ne faudrait pas plus sérieusement prendre en compte la nostalgie que l'Europe a de l'ancienne hégémonie américaine. Est-ce que véritablement les Européens sont sortis de ce temps atlantiste où effectivement ils remettaient leur défense, leur sécurité, leur politique étrangère aux géants ou aux grands frères américains, ce qui les dispensait de faire ce qu'ils sont incapables de faire et qu'historiquement ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire une défense et une politique étrangère commune. Vu l'état dans lequel se trouve l'Europe, se débarrasser de ces questions, de ne pas en faire un dénominateur commun actif parce qu'on n'y arrivera pas, et se plaindre en même temps de ce grand frère américain qui reste de fait le dépositaire de notre sécurité, c'est un calcul qu'aiment faire à peu près tous les Européens. Alors il faut arrêter. Si véritablement l'Europe a envie de se distinguer des États-Unis, elle avait de multiples occasions de le faire ces derniers temps. Elle l'a pas fait. Alors arrêtons la comédie. Je pense qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir une diplomatie indépendante, même sur les questions essentielles des biens communs.
Benjamin, notre couverture, vous rejoignez Bertrand Badie sur ce point-là. Au fond, nous n'avons ni la volonté, ni même peut-être les moyens.
Alors absolument, je rejoins parfaitement Bertrand Badie. Pour les questions sur lesquelles je travaille plus particulièrement, il y a une opportunité historique qui se présente là, avec la fin du traité FNI qui se profile pour le début du mois d'août, de lancer sérieusement, dans le détail, des initiatives européennes pour encadrer les différents formes de violence liées au développement de nouveaux systèmes balistiques, en particulier en Russie et dans le cadre du dialogue bilatéral totalement bloqué entre les États-Unis et la Russie. Je tiens juste à rappeler que l'architecture de sécurité en Europe est morte. Le traité FCE est quasiment mort. Le document de Vienne n'existe plus. FNI, c'est fini, disons-le, au mois d'août. Et nous ne sommes même pas sûrs que l'horizon, qui est le dernier horizon existant de la prorogation du traité New Start en 2021, donnera quelque chose. À ce moment-là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un vide sécuritaire. Et ce vide sécuritaire, évidemment, c'est une opportunité pour l'Europe de le remplir en donnant corps à cette idée d'autonomie stratégique. Mais malheureusement, comme vous le disiez, le temps politique est très mauvais pour cela, parce qu'il y a trop de dissensions européennes sur ce sujet, avec des loyalistes des États-Unis et d'autres, dont la France, malheureusement, assez seule sur le sujet, qui aimerait en profiter comme une opportunité historique.
Merci beaucoup, Benjamin Haute-Couverture, d'avoir été avec nous ce matin. Grand merci également à vous, cher Bertrand Badie, notre parrain, le parrain de Culture Monde, qui va se poursuivre l'année prochaine, évidemment. Un grand merci également. Comment ?
Vous dites qui va se poursuivre ? Moi ou l'édition ?
Les deux, on espère. Et évidemment, notre partenariat également avec Le Monde. Marc Sémon, on vous donne rendez-vous le 26 août prochain. On prend quelques semaines de vacances. Je remercie quand même toute l'équipe de Culture Monde. Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Maïder Gérard, Benjamin Hu, Vincent Abouchard, Corentin Mansois, sans oublier Samuel Bernard qui nous a accompagnés une partie de l'année. Certains seront encore là l'année prochaine. D'autres non, d'autres navigueront vers de nouvelles aventures. Je les remercie en tout cas chaleureusement pour tout le travail effectué au quotidien. Culture Monde ne s'est jamais aussi bien porté. Il faut dire qu'évidemment les affaires du monde sont absolument passionnantes, mais en tout cas les auditeurs de France Culture sont de plus en plus nombreux à nous écouter et je m'en réjouis. Rendez-vous donc le 26 août prochain. Lui aussi on le retrouvera le 26 août, c'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et pour cette dernière chronique avant la suivante, le 26 août, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui semble sonner le glas de la mondialisation.
Oui, en tout cas, le concept de terre plate, lui, a vécu. Et il entraîne dans sa chute un certain nombre de mythes politiques comme celui d'Empire universel. Souvenez-vous, c'était pas si vieux. Dans La Terre est plate, paru en 2005, Thomas Friedman, éditorialiste vedette du New York Times et triple lauréat du prix Pulitzer, nous expliquait le fonctionnement du monde. Enfin, le fonctionnement du monde il y a 15 ans. Grâce aux révolutions du conteneur et des technologies numériques, la chaîne de valeur, disait-il, pouvait être dorénavant disséminée à travers la planète. En fonction des meilleures opportunités locales, de coûts, votre smartphone était progressivement conçu, fabriqué, assemblé et vendu, équipé d'applications dans un grand nombre de pays différents. La conséquence, c'était une interdépendance croissante entre un nombre de plus en plus important d'États, leur affaiblissement politique au profit des méga-entreprises transnationales, l'apaisement des conflits politiques grâce au système de médiation internationaux. Mais ça, c'était avant. Ce à quoi nous assistons depuis quelques années déjà, c'est à la revanche de la géographie. Au programme Made in China 2025, par lequel Xi Jinping entend faire de son pays ancien atelier de la planète le leader des technologies émergentes, a répondu le mercantilisme de Donald Trump. Le président américain, nationaliste déclaré, a choisi les intérêts des entreprises américaines contre ceux des consommateurs américains. Non content de taxer les importations chinoises, il a placé par exemple Huawei sur la liste noire des entreprises auxquelles il est interdit de vendre de la technologie américaine. Les Américains, écrit Manuel Muniz, un économiste espagnol, redoutent sérieusement de perdre leur avance dans des domaines tels que les cybercapacités, l'intelligence artificielle et même l'aéronautique. La logique nationale, celle des États, fait donc retour. Et symétriquement, observe le même espagnol, Muniz, les talents dont le numérique était censé provoquer la dissémination à travers la planète, ils ont tendu à se regrouper dans une petite poignée de hubs, toujours les mêmes, Cambridge, Massachusetts, Silicon Valley sur la côte pacifique, Shenzhen en Chine. Les innovateurs de pointe dans tous les domaines éprouvent dorénavant le besoin de travailler en étroite proximité. Là encore, revanche de la géographie. Et résultat, la quasi-totalité des licornes, ces startups valant au moins 1 milliard de dollars, sont situées soit aux États-Unis, soit en Chine. Oubliez le G20, nous sommes entrés dans le monde du G2. Or, si la concurrence entre les deux géants qui dominent le monde aujourd'hui parvient au point d'éruption, que va-t-il rester de la mondialisation ? Les effets collatéraux mettraient un terme aux marchés mondiaux et on peut déjà imaginer, comme le font certains, une retraite dans des archipels technopolitiques régionaux.
Et Brice, certains vont jusqu'à prédire la revanche de cette dimension politique qu'on avait tendance à penser en voie d'épuisement, la nation.
C'est notamment le cas d'un intéressant politologue israélien, Yoram Hazoni, le président du Herzl Institute de Jérusalem. Pour ce penseur conservateur, l'époque est marquée par l'effondrement de l'impérialisme libéral dont, à ses yeux, l'Union européenne constituait l'une des incarnations les plus abouties. Pour lui, les Hébreux de l'Antiquité constituaient déjà, en réalité, une forme de proto-nation et c'est la raison pour laquelle ils se sont opposés aux Égyptiens, à Babylone, à l'Empire romain. Mais l'histoire nous enseigne que la fondation des nations modernes a une date et un lieu précis. Les traités de Westphalie de 1648. À ce moment, en Europe, les protestants obtinrent, contre l'universalisme impérial catholique, la création d'États souverains. Pour Yoram Hazoni, ce qu'il faut redouter en effet, ce n'est pas tant les nations que les empires. Mais Hannah Arendt, souvenez-vous, ne disait pas autre chose. Ainsi, la Shoah est la conséquence de l'ambition délirante d'Hitler détruire les nations européennes et de construire sur leurs ruines un gigantesque empire continental. Au contraire, dit toujours Yoram Hazoni, la création de l'État d'Israël est la réalisation de très anciennes aspirations sionistes, d'où la référence de son institut au fondateur Theodor Herzl. Les empires font toujours la même promesse, dit-il, la paix et la prospérité, mais au prix d'une même exigence d'uniformité qui les condamne à user de coercition. Les empires se réclament toujours d'une forme quelconque d'universalisme et ils combattent les particularismes, alors que c'est précisément l'extrême diversité de modèles politiques et culturels des nations la composant qui a assuré à l'Europe sa prééminence du XVIIe siècle au début du XXe. La concurrence entre nos nations était un facteur d'émulation et de progrès. Les empires, au contraire, sont condamnés à la stagnation par leur stabilité même. Mais comment peut-on prétendre que notre Union européenne aspire à l'empire ? La forme impériale exige un facteur qu'ignore Hazoni, la volonté hégémonique d'une nation dominante et par bonheur, rien de tel en Europe de nos jours.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Et puis on se donne rendez-vous le 26 août, cher Brice. Très bel été d'ici là.
Merci à vous.
Merci beaucoup Brice.